C'est maintenant et c'est pour vous sur Radio Nîmes 92.2.
Amis auditeurs et auditrices de Radio Nîmes, nous poursuivons notre quête de la vérité sur cet escalier en compagnie du chat d'Iran. Qui était-il vraiment ? Le tortionnaire Zaidi, cette recrue nazie de choix, même si elle fit du zèle en tuant le chef de la police, ce qui n'était pas planifié, s'employa à créer une police politique sur le modèle de la Gestapo, la SAVAK, que Amnesty International estime avoir été la pire police politique que le monde ait connue. Afin de constituer cette police, on fit reprendre du service à d'anciens gestapistes qu'on fit encadrer par 200 à 300 officiers du Mossad israélien de l'équipe d'Isaac Shamir. Le directeur de la SAVAK avait son musée, où étaient exposés dans du formol des restes humains des personnes torturées par ses soins. Musée qu'à la chute du Shah, on fit visiter à des journalistes. De là naquit une haine pour Israël dans un pays où il existe une communauté juive, un pays dont l'un des grands ancêtres, Darius, fut le grand libérateur des juifs réduits en esclavage à Bagdad, un pays qui compte un représentant des juifs au sein de son assemblée nationale. Il faut dire que du temps du Shah, une collaboration occulte étroite existait entre Tel Aviv et Téhéran. 100 000 juifs irakiens migreront vers Israël en passant par l'Iran. Un contrat de 1,2 milliard de dollars avait été passé au travers duquel le Mossad fournissait des renseignements à la SAVAK ainsi que du matériel et de l'assistance. Durant son règne, à compter de 1963, le Shah tenta de mettre en route des réformes pour moderniser son pays. Il avait un rêve, ressusciter la puissance de l'empire de Darius. En 1963, il lance la Révolution Blanche, nommée ainsi car voulue non violente. Elle a le soutien de Kennedy et le Shah choisit comme premier ministre Ali Amini, un aristocrate libéral qui a été ambassadeur à Washington. L'idée est de moderniser le pays et de contrer l'influence soviétique. D'abord, il y aura la réforme agraire et sa redistribution des terres à ceux qui la travaillent au détriment de grands propriétaires fonciers, soit chefs de tribu, soit religieux, qui les ont reçus par legs. Les grands propriétaires terriens peuvent conserver les terres d'un village à la condition de mécaniser l'exploitation. Les pertes des possédants sont compensées par la vente par l'État d'actions industrielles. Véritable révolution dans ce pays musulman, il va accorder aux femmes non seulement le droit de vote, mais aussi l'éligibilité. Sa sœur jumelle Ashraf deviendra présidente de l'Organisation des femmes iraniennes, regroupant 18 associations de femmes, mais elle brille aussi à l'international comme membre de la Haute Commission des droits de l'homme aux Nations Unies, ou lorsqu'elle accompagne des délégations diplomatiques, notamment en Chine. Côté bling-bling, elle a accumulé une immense fortune et fréquente assidûment les cercles de jeu de la Côte d'Azur sous le sobriquet de la Panthère. Noire. Son frère, le Shah, veille à l'éducation de son peuple en envoyant des soldats instruits dans les villages pour une durée d'un an pour alphabétiser les populations. Il surnomme cela l'armée du savoir. En juin 1963, un référendum populaire plébiscite ses réformes, mais ces dernières lui valent l'opposition des grands propriétaires ainsi que du clergé qui n'accepte pas le nouveau statut des femmes. Alors, surgit de nulle part un mollah, Ruhollah Khomeini, qui prêche contre ces réformes. La croissance est au rendez-vous durant 9 années avec une inflation modérée, le peuple des campagnes néanmoins appauvri reflue vers les villes. La classe moyenne se développe, mais le Shah s'isole et crée le parti unique au grand dam de ses opposants. Le souvenir des 19 gouvernements de l'ère du parlementarisme était encore vif pour le souverain. L'émancipation des femmes dans les grandes villes leur donne accès à la fonction publique, à la télévision, voire à des postes de ministres. Mais dans les campagnes, le poids de la tradition règne avec les mariages de très jeunes filles, la déscolarisation. Le paradoxe sera que quelques années plus tard, les femmes des villes qui doivent tout aux réformes de Pahlavi vont se trouver en première ligne des manifestations contre le régime en place, réclamant plus de liberté, moins de corruption et plus de justice. Au lieu de tout cela, elles allaient bientôt connaître le voile dans les lieux publics et malgré leur défilé de protestation du 8 au 14 mars 1979, on leur imposait la séparation homme-femme dans les transports et les écoles, et bien sûr au travail, et un rabotage des droits en matière de divorce, de garde des enfants, de témoignage en justice, d'accès à certains métiers et de liberté de parole. Les ayatollahs temporisèrent sur le moment, mais imposèrent leur vue en 1980. Farrokhrough Parsa, femme ministre de l'éducation en 1968, finit exécutée. Un aspect peu connu de cette époque est la décision du souverain de marquer la frontière contestée avec les Russes en plantant des haies d'arbres fruitiers. Les Américains étaient chargés de l'infrastructure, routes, fermes, plantations et irrigations, mais les arbres devaient être de certification française. Deux entreprises étaient sur les rangs, Starfruit et Mondial Fruit Selection. Leur offre avait été volontairement surévaluée puisque le chat avait, selon elle, les moyens de payer. Sauf qu'un troisième larron intervint, l'entreprise Delbar, qui en premier lieu montra aux émissaires iraniens son savoir-faire, puis on passa au savoir-être. Les envoyés du chat se virent offrir un séjour dans la capitale tout frais payé, y compris les jeunes femmes s'assurant de leur bien-être. Delbar emporta le marché, et quel marché ! 3 millions d'arbres, abricotiers, pommiers, pêchers, poiriers, des collines entières furent dévolues au porte-greffe qu'il fallait inspecter pour certification en réquisitionnant durant une semaine tous les techniciens disponibles. Un Boeing 747 cargo faisait la navette pour transporter les arbres. Cela se poursuivit jusqu'à l'avènement de Roménie. On stoppa les livraisons et les arbres présents qui n'avaient pas été plantés mais étaient restés dans les jauges de sable par paquets de 10, sans se soucier de la révolution en cours, faisaient le job et produisaient des fruits.
On se parle, on partage, on comprend, on apprend, on se détend. Radio Nîmes.
There were green fields kissed by the sun. Once there were valleys where rivers used to run. Once there were blue skies with white clouds high above. Once they were part of an everlasting love. We were the lovers who strolled through green fields. Green fields are gone now, parched by the sun. Gone from the valleys where rivers used to run. Gone with the cold wind that swept into my heart. Gone with the lovers who let their dreams depart. Where are the green fields that we used to roam? I'll never know what made you run away. How can I keep searching when dark clouds hide the day? Ooh. I only know there's nothing here for me. Nothing in this wide world left for me to see. But I'll keep on waiting till you return. I'll keep on waiting until the day you learn. You can't be happy while your heart's on the roam. You can't be happy until you bring it home. Home to the green fields and me once again.
Le chat, réputé timide, était néanmoins un homme à femme. Il s'était marié trois fois, la première avec la princesse Faouzia, fille aînée du sultan Fouad Ier d'Égypte et sœur du roi Farouk, une mi-égyptienne, mi-albanaise, de confession sunnite, belle comme une star de cinéma, trilingue, ayant fait ses études en Suisse. Elle épousa Pahlaoui en 1939 et monta sur le trône en 1941. Elle ne s'acclimata pas à Téhéran, ville peu attractive à l'époque, et dépérissant à vue d'œil, délaissée par un époux chiite qui courait les maîtresses, elle finit par rentrer en Égypte et divorcer en 1948. Elle décédera à Alexandrie à 91 ans. En 1951, le Shah épousa Soraya Esfandiari Bakhtiari, le grand amour de sa vie. C'était la fille d'un puissant notable ambassadeur d'Iran en Allemagne et d'une Allemande d'origine russe. Soraya avait vécu à Berlin, à Ispahan, à Zurich et à Londres. Le mariage eut lieu au Palais de Marbre de Téhéran. 2000 invités se pressèrent, dont l'Aga Khan. 1,5 tonne de fleurs furent livrées depuis la Hollande et la mariée, très faible et atteinte de typhoïde, parée d'une robe Dior dont on avait allégé la traîne, reçut des cadeaux du monde entier, offerts par Staline, Truman ou George VI. Soraya ne connaissait rien de l'Iran et elle fut perçue par le clergé comme une européenne catholique qui n'avait rien à faire sur le trône. Elle eut l'infortune de partager avec son époux les convulsions de la période Mossadegh, l'accompagnant en exil à Rome. En butte aux humiliations de sa belle famille, elle devait compter aussi avec la malveillance du secrétaire privé et mentor du Shah, un Suisse nommé Ernest Perron, qui avait l'oreille du souverain. Soraya s'occupait de bienfaisance, visitait des écoles, des hôpitaux, des orphelinats et les quartiers pauvres sans hygiène et se sentait très loin de ses années d'étudiante insouciante aux terrasses des cafés parisiens. Le couple impérial se distrayait lors de bals costumés et lors d'un voyage aux États-Unis, Soraya rencontra des vedettes d'Hollywood et fut photographiée pratiquant le ski nautique en bikini, ce qui scandalisa les religieux iraniens. L'absence d'héritier allait mettre un terme au mariage, Soraya refusant l'idée d'une deuxième épouse dans le foyer. Le divorce fut prononcé en 1958. Soraya trouvera plus tard une relative consolation avec Maximilian Schell, puis Günther Sachs, puis le réalisateur de films italien Indovina. Retirée à Paris, elle y mourut à 69 ans et lors de ses obsèques, son frère cadet mourut pendant le service funéraire. C'est à Paris que le Shah va rencontrer sa troisième épouse, petite fille d'un ambassadeur de Perse en Russie, orpheline d'un capitaine de l'armée, élevée par un oncle, elle grandit dans un climat francophile, école Jeanne d'Arc, lycée français de Téhéran, école spéciale d'architecture boulevard Raspail où enseigne un hygiéniste et promoteur du vaccin contre la poliomyélite, Albert Besson, ce qui aura une incidence plus tard lorsque la petite étudiante s'occupera de la santé du peuple iranien. La jeune fille est une sportive. Elle remporte le championnat de la jeunesse iranienne en saut en hauteur. C'est aussi un leader. Capitaine de l'équipe de basket de son école, elle l'amène 3 fois à la victoire au championnat de Téhéran. Intégrant les scouts, elle en sera cheftaine et en 1956 accompagnera sa petite troupe pour un premier voyage à l'étranger. Ce sera Paris. À Paris, justement, quelques années plus tard, elle loge en tant qu'étudiante dans la Cité internationale universitaire au pavillon néerlandais et fait partie de la délégation d'étudiants présentée au Shah lors de sa rencontre avec le général de Gaulle. L'homme qui la présente au souverain est Ardeshir Zahedi, le fils du premier ministre remplaçant de Mossadegh, mais aussi le patron de la sinistre Savak. Ardeshir est également le gendre du Shah, ayant épousé sa fille Shahnaz Pahlavi. Farah se liera rapidement d'amitié avec Shahnaz, suivront plusieurs rencontres qui ne seront pas le fait du hasard, puis les fiançailles le 1er décembre 1959 et le mariage le 21 décembre de la même année. Farah va donner un fils au Shah en accouchant volontairement dans un hôpital public le 31 octobre 1960. 3 autres enfants suivront la naissance de Reza. Amis auditeurs et auditrices de Radio Nîmes, lors de notre prochaine rencontre, nous assisterons au couronnement du Shah et de la Shah Banu.
Baby, I'm pregnant, she said. And I saw my whole life flash before my eyes. So much for planning ahead. But we gon' be alright. It won't be your right time. Oh, I said I am way too young. I'm just a kid, I can't raise one. It feels like my life is over. Feels like my future's crushed. And I'm gonna miss the times when it was just the two of us. I don't ever want to let go of everything that I love. Sure feels like dying, saying goodbye to my beautiful life. Daddy, I can't sleep, she said. Can you leave the light on? Please sing me my song. And I can't help but think to myself, those green eyes and brown curls turned into my whole world. She's growing. it's over. Feels like my future's crushed. Cause my baby's getting older. Tomorrow she be all grown up. I don't ever want to let go of everything that I love. Turn off the lights and say goodnight to my beautiful life. Pack the bags and ready to go. We look at each other. She looks like a mother. Off to chase dreams of her own. She cries in the backseat as we wave at the taxi. Oh, our baby's moving now, leaving this home. Feels like my life is over. Feels like my future's crushed. And I'm gonna miss the times when it was just the three of us. I don't ever want to let go of everything that I love. It sure feels like dying, saying goodbye to my beautiful life. A beautiful life. Baby, I'm pregnant, she said. And I saw my whole life flash before my eyes.